ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا عباد الله، يقول ربنا جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبفضل الله تبارك وتعالى ومنته تحدثنا عن دعاء غير الله في خطبة سالفة، وتحدثنا أيضا عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في الخطبة السابقة، وبقي أن نتحدث عن الأمر الثالث المذكور في هذه الآية، ألا وهو الزنا ولا يزنون. فعباد الرحمن قوم لا يستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين، لأنهم يعلمون أن الزنا عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويخرس الألسنة البليغة ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة. إن الزنا أعاذنا الله وإياكم منه من أعظم الفواحش ومن أكبر الكبائر، توعد الله عز وجل عليه بالعقوبات العظيمة البالغة العاجلة والآجلة العامة والخاصة، وما ذلك إلا لشناعته وقبحه عند الله سبحانه. يقول عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الزنا كله قبيح ومنكر، ليس فيه يسير ولا هين، ولكن عقوبته عند الله قد تتضاعف في أحوال مخصوصة. فمن ذلك ومن أعظم وأقبح الزنا زنا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي خلع عنه رداء الشباب، فهو ليس كغيره من الناس. وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان. الأشيمط أيها الأخيار هو من اختلطت عليه أو على رأسه شعر أبيض وشعر أسود. أشيمط زان وعائل مستكبر، أي فقير متكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وإنما اشتدت عقوبة الله عز وجل على الشيخ الزاني لأن الدافع له إلى الزنا ضعيف بالنسبة إلى الشاب، فإنما يدل ذلك على تأصله في الشر والخبث والعياذ بالله. عباد الله، لما كان الجار في الإسلام كبير القدر أمرنا الشرع بأن نكرمه وأن نحسن جواره وأن نحفظه في أهله ليسود المجتمع جو المحبة والألفة والأمن والطمأنينة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من يستغل قرب دار جاره وأمن جانبه في إفساد امرأته، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي زوجته. وأخرج أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما ترون في الزنا؟ فقالوا رضي الله عنهم: حرام، حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزاني امرأة جاره. لأن يزاني أو لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أو بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. عباد الله، لما كان من عادة الرجل أن تطول غيبته في بيته لأسباب الأسفار في طلب الرزق وغيره من المصالح، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من استغل هذه الفرصة ليفسد عليه امرأته وهو غائب. فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، المغيبة هي التي غابت عنها زوجها، مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. قال شراح الحديث: كأنه يعني والله أعلم أن الله تبارك وتعالى يسلط عليه ثعبانا أسود ينهشه ويلدغه ويسيمه سوء العذاب يوم القيامة، والعياذ بالله. عباد الله، إن الزنا يسلب من العبد كمال إيمانه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشربها حين يشربها وهو مؤمن. وباب التوبة أو والتوبة معروضة بعد. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن من فعل هذه المعاصي فما هو بكامل الإيمان، ومثل هذه الألفاظ تطلق على النفي وإنما يراد به نفي كماله. أيها الأخيار، حين يتساهل الناس في أمر الزنا حتى فشى فيما بينهم فلا يعاقب فاعله ولا ينكر على أهله، فإن الله تبارك وتعالى يسلط على الناس العقوبات العامة. من ذلك ما أخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن: أول، لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا من قتل السماء. لا، هذا هو الثاني. الأول، ما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم من الطاعون والأوجاع ما لم يكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا من قتل السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا من كتاب الله إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم. وبالله عليكم أيها الأخيار، ألسنا نعايش مصداق هذا الحديث في عصرنا هذا؟ فإننا نرى من الأمراض والأوجاع والطواعن ما لم يكن معروفا في الأزمان الماضية، وإن في ذلك لعبرة للمعتبرين، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يراقب ربه عز وجل إذا حدثته نفسه بالفاحشة، على كل مسلم ومسلمة أن يتذكر المقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأن يستحضر في ذهنه أنه بالوقوع في الفاحشة يبيع جنة عرضها السماوات والأرض للذة عابرة، ما أسرع ما تنقضي، لذة عابرة ما أسرع ما تنقضي، ويبقى بعد ذلك من العواقب ما الله به عليم، العواقب المرة. فليتذكر من أراد الوقوع في هذه الجريمة أنه قد يخلق بعدها إنسان سيعيش إنعاش لقيطا ليس له أب ولا أم ولا أسرة حقيقية، وما ذنبه في ذلك؟ فإنه سيكبر إن شاء الله، ولعله يدرك مدى الجريمة التي وقعت عليه من غير ذنب منه، ولربما يدعو على والديه ما امتد به العمر. فليتذكر أن هذه الجريمة التي سيقدم عليها قد يصبح منها أو قد تصبح منها جريمة أخرى، يوم تعمد الزانية إلى بإجهاض جنينها لتمحي آثار الجريمة عنها، فتجرها بذلك إلى جريمة أكبر وأشد منها، وهي جريمة القتل. فقد جمعت بين جريمة الزنا وجريمة القتل. فيا أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن باب التوبة مفتوح، إن باب التوبة مفتوح، وما دام الروح يتحرك تبلغ الغرغرة بعد، فإن التوبة في حقه ممكن، فإن التوبة في حقه ممكنة. فقد قال ربنا عز وجل في حق عباد الرحمن: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبوا إلى الله مما وقعتم فيه من جريمة الزنا، فإن باب التوبة لا زال مفتوحا. إن الله تبارك وتعالى تواب رحيم، إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله عز وجل واسع المغفرة، إن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويمحو عن السيئات. واسمعوا يا عباد الله إلى ما أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها، ولا يزال كذلك، فلم يترك حاجة ولا دادة إلا أتاها، فهل عليه من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ فقال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله تعالى كلها أو كلهن خيرات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى وغاب عن أعين الناس. أيها المسلمون، لقد قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: إنما التبديل أي تبديل السيئات فتصبح حسنات في حق من ندم على ما فعل. إنما التبديل في حق من ندم على ما فعل وجعله نصب عينيه، فكلما تذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله تبارك وتعالى ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الأسف والندم على هذه الذنوب أضعف مما ذاقه من حلاوتها لما ارتكبها، فتصير هذه الذنوب كلها سببا لأعمال صالحة ماحية له. فكيف يستنكر بعد هذا أن تصبح هذه الذنوب حسنات؟ انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها المسلمون، يا أيها الناس، اعلموا أن هذه الجريمة سبب لأمراض عديدة، أمراض النفس والقلب والجسد والمجتمعات، فعلينا أن نبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نترك هذا الأمر القبيح الذي حذر من الوقوع فيه ربنا عز وجل. ومن باب أولى ننصح إخواننا من الشباب أن يجتهدوا وأن يبذلوا كل ما عندهم لتحصيل أسباب الزواج، فإن ذلك أيسر عليهم في حفظ أنفسهم من الوقوع في ذلك. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فلطالما يأتون لي أو فلطالما يأتون بعض يأتي بعض الناس من الشباب يشكون إلى أئمة المساجد يقولون نحن نريد الزواج ولا نجد أحدا يزوجنا ببنته أو بأخته، فلما نسأله ألك بيت؟ ألك مال؟ ألك شيء تصرفه في حق زوجتك وتنفقه عليها؟ فإذا هو مبهوت لا يجد ولو كلاما يرد به. فنحن نقول لهؤلاء الشباب ونوصيهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام أو بالصوم. فإذا سألنا هؤلاء الشباب: طيب أنت عاجز عن الزواج الآن، فهل تصوم؟ فلا يرد ولا يتكلم ولا يقول شيئا. فنقول لك أيها الشاب، إذا لم تتيسر عليك أسباب الزواج فصم، واسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يرزق لك امرأة صالحة تقر عينيك، تقر عينيك وقلبك. نعم، فنوصي وننصح إخوتنا من الشباب أن يبذلوا كل ما عندهم في تحصيل الأسباب الميسرة على الزواج، وإن لم يستطيعوا على ذلك فعليهم بالصوم. وننصحهم كذلك وننصح أنفسنا قبل كل شيء بعدم الذهاب والتواجد في الأماكن التي يكثر فيها الفساد كالأسواق والمنتزهات والأسفار في البلاد الإباحية التي الزنا فيها منتشر. وكذلك نحذرهم من صحبة أو من مرافقة أصحاب السوء. ولنتذكر جميعا أيها الناس أننا في هذه الدنيا ممتحنون مختبرون، وأن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان حتى نغادرها إلى دار الجزاء. واعلموا أن هذه الشهوات التي يصيب بها العديد من الناس إنما هي شيء مما يبتلي الله تعالى به عباده ويختبرهم به. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah ta'ala d'autres divinités et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdit sauf avec justice et qui ne font pas la fornication. Mes frères, grâce à Allah subhanahu, nous avons vu dans des sermons précédents les deux premières parties de ce verset qui sont le fait d'invoquer avec Allah d'autres divinités ou bien d'invoquer autre qu'Allah à la place d'Allah. Et on a parlé aussi la semaine dernière des différents types de meurtres qui peuvent paraître aux yeux des gens comme n'étant pas un meurtre mais seulement un accident, mais qui le sont aux yeux de notre loi qui le sont aux yeux de notre loi. Il nous reste aujourd'hui, mes frères, à parler du troisième type, de la troisième partie de ce verset, qui est la fornication, al-zina. Les serviteurs du très miséricordieux, Ibad al-Rahman, sont des gens qui ne s'autorisent pas, sans avoir le droit, la chasteté des gens, la chasteté des autres, sans qu'il y ait eu un mariage auparavant. Car ils savent que la fornication est un mal qui a détruit des maisons qui étaient hautes et qui a fait se rabaisser des têtes qui étaient élevées et qui a rendu muettes des langues éloquentes et qui a fait plonger dans des affres et des abîmes des gens qui avaient le coulon et qui jouissaient d'une réputation auprès des gens dans les ténèbres de la honte, de l'humiliation et de l'ignominie. Mes frères, la fornication qu'Allah nous en préserve fait partie des pires péchés et des plus grands. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui tombe dedans par de nombreux châtiments. Des châtiments qui sont soit instantanés ou soit qui les attendent devant Allah yawm al-qiyamah. Des châtiments qui sont immenses et terribles et des châtiments qui peuvent les toucher seulement eux ou toute la communauté dans laquelle ils vivent. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit et n'approchez pas de la fornication. C'est certes une turpitude et le pire des chemins. Allah il n'a pas dit ne faites pas la fornication directement. Il a dit n'approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que tout ce qui y amène est interdit. Mes frères, la fornication est un péché grave et terrible. La quantité, le nombre de fois dont il a été fait, n'a pas d'incidence par rapport au péché. Mais, il se peut que la punition, le châtiment qui sera le résultat de ce péché, soit plus ou moins énorme devant Allah Ta'ala, en fonction de la situation dans laquelle il a été commis. C'est-à-dire que le péché en lui-même aura un châtiment pire en fonction de la situation dans laquelle il a été commis. Parmi ces types de châtiments terribles, la fornication du vieil homme. Un vieil homme qui tombe dans ce péché n'est pas comme un jeune qui tombe dans ce péché. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il y a trois types de personnes à qui Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala ne purifiera pas le jour du jugement, et il ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Il a dit, Ushaymitun Zanin, Al-Ushaymit, c'est un homme ou une personne d'un certain âge qui a les cheveux blancs autant que les cheveux noirs sur la tête. Le deuxième, Ushaymitun Zanin wa Aylun Mustakbir, un pauvre qui est orgueilleux. Un pauvre qui est orgueilleux. Il n'est pas comme un riche qui est orgueilleux. Le pauvre orgueilleux, il est pire que le riche orgueilleux. Et le troisième, un homme qui a fait d'Allah Ta'ala sa marchandise. Lorsqu'il achète, il jure. Et lorsqu'il vend, il jure. Pour vendre et pour acheter à bon prix. Et sachez que la punition du vieil homme qui est tombé dans la fornication est pire que celle du jeune qui tombe dans le même péché, parce que l'engouement et les causes qui l'ont poussé vers ce péché sont beaucoup plus faibles pour le vieux que pour le jeune. Ça veut dire que le vieux qui s'est dévêti du vêtement de la jeunesse et dont la jouissance et les envies physiques se sont amoindries avec les années, celui qui tombe dans ce péché-là, il n'a plus que prouver aux yeux des gens à quel point il est ancré dans le mal et la turpitude, qu'Allah nous en préserve. Autre type de fornication grave. On sait tous ici à quel point l'islam a donné une valeur aux voisins.
et à quel point l'islam il a ordonné aux musulmans de faire honneur à son voisin et de faire preuve de bon voisinage et de respecter ce voisin à travers sa famille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a lancé une menace terrible à l'encontre de celui qui profite de sa proximité, de la proximité qu'il a de son voisin et de la sécurité qu'il lui a octroyée en habitant près de lui pour atteindre l'honneur de sa femme. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu l'a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les plus grands péchés auprès d'Allah? Alors il m'a répondu, que tu assignes à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. Alors Abdullah il a répondu, oui, certes c'est terrible, c'est grave, quoi d'autre? Il a dit que tu tues ton enfant de peur à ce qu'il mange avec toi et qu'il prenne ta part. Abdullah il a dit, quoi d'autre? Alors le prophète il a répondu, que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Et dans notre hadith, le prophète dit aux sahaba radiallahu anhum, qu'est-ce que vous voyez dans la fornication? Alors les compagnons ont répondu, elle est interdite. Allah l'a rendue interdite. Et le prophète aussi, elle est donc interdite jusqu'au jour du jugement. Le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, si un homme fornique avec 10 femmes, c'est moins pire pour lui que s'il avait forniqué avec la femme de son voisin. Parmi les types de fornication graves, on sait qu'il arrive, même si dans notre société ça se fait rare, il arrive que les maîtres de maison soient amenés, à voyager pour aller chercher des subsistances, de l'argent et de la nourriture pour leur famille. Et à cause de cela, ils laissent leur famille seule pendant des périodes assez longues. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois de plus, a mis en garde et a menacé celui qui profite de l'absence de cet homme-là pour assouvir son désir dans sa chair avec sa femme. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, l'exemple de celui qui s'assoit sur le lit de la femme dont le mari s'est absenté est comparable à celui qu'un énorme serpent noir vient mordre le jour du jugement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il va lui assigner à cette personne un serpent immense de couleur noire qui aura comme mission de le mordre et de lui faire subir un châtiment terrible le jour du jugement. Mes frères, nous vivons à une époque dans laquelle les troubles se font nombreux, dans laquelle les gens vivent au milieu de la fornication et presque ça ne leur fait plus rien, à un point où celui qui le fait, on ne lui dit rien. Et ceux qui se revendiquent comme étant des partisans de cela, nul reproche ne leur est fait. Et lorsqu'il arrive une telle chose, Allah tabaraka wa ta'ala envoie des châtiments qui touchent tout le monde, qui touchent la société dans laquelle vivent ce genre de personnes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est jaloux. Allah Azza wa Jal, il est jaloux lorsque ses interdits sont transgressés, lorsque les ordres qu'il donne sont transgressés et lorsque les limites qu'il pose sont outrepassées. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous est venu, il nous a dit, ô vous l'ensemble des émigrés, al-Muhajirin, ceux qui venaient de Mecca, il y a 5 choses. Si jamais elles vous arrivent, et je demande à Allah protection contre le fait qu'elles vous arrivent, 5 choses. La première, lorsque chez un peuple, la turpitude de la fornication se répand, jusqu'à ce que les gens le manifestent et le montrent aux gens, et bien Allah Ta'ala, il leur envoie des maladies, et des maux, et des catastrophes qui n'ont jamais été connues auparavant chez leurs prédécesseurs. Des maladies qui n'ont jamais été connues chez leurs prédécesseurs. Voilà bien le consul Mikael à Walmizan. Lorsqu'ils vont la peser de ce qui est solide ou liquide. Ils trichent dans la pesée. Si jamais ils font ça, et bien Allah tabaraka wa ta'ala, il va leur envoyer des famines. Et il va faire que leur vie sera difficile. Et il mettra à leur tête des dirigeants qui seront injustes envers eux. Écoutez ce hadith. وقولوا آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. Il nous rapporte des éléments comme s'il vivait avec nous aujourd'hui. Et les gens toujours ils cherchent des coupables et ils montrent du doigt les autres. Si on vit comme ça, c'est à cause de la tête. Si on vit comme ça, c'est à cause de la tête. Écoutez ce que le prophète dit عليه الصلاة والسلام. Quand la fornication s'installe dans un peuple et que les gens la manifestent et le font publiquement sans éprouver de honte, Allah Ta'ala leur envoie des maladies que jamais personne avant eux n'a connues. Et lorsque les gens tristes ont la pesée du liquide et du solide, Allah Ta'ala leur envoie des famines. Allah il leur envoie une vie difficile et il leur envoie des dirigeants qui sont injustes envers eux. ذَلِكَ بِمَا كَسَّبَتْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. Troisième chose. Et si jamais ils privent l'argent, leur argent de la zakat, يعني ils donnent pas la zakat sur leur argent, et bien Allah tabaraka wa ta'ala, comme eux ils ont privé aux pauvres leur argent, et bien Allah il leur prive les gouttes de pluie du ciel. Et si ce n'était les bêtes, si ce n'était le bétail qui broute l'herbe, ils auraient reçu aucune goutte de pluie. Quatrième chose, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. عظيم الله. Et si jamais ils trahissent le pacte qu'ils ont envers Allah tabaraka wa ta'ala et son messager alayhi salatu salam, Allah ta'ala ouvre bien vos oreilles, Allah ta'ala leur enverra un ennemi qui ne fait pas partie des leurs. Et il s'installera parmi eux et il leur prendra des choses qu'ils avaient entre leurs mains. Comparé avec notre vie d'aujourd'hui, faites la comparaison. Regardez d'où les choses viennent. Elles viennent des gens et de leurs péchés. Et dernière chose, et tant que les imams, les dirigeants de cette communauté ne jugeront pas avec la loi d'Allah, ou bien ils y choisissent ce qu'ils veulent, et bien Allah Ta'ala, il fera qu'il y ait la dissension, la haine et l'inimitié entre nous. Les musulmans eux-mêmes, ils ne se font plus de cadeaux. Les musulmans eux-mêmes n'éprouvent plus de miséricorde les uns envers les autres. Voilà le hadith azim. Hadith azim. Encore un type de fornication grave. Non, même pas. C'est un des points les plus importants concernant celui qui tombe dans ses péchés. Sachez que celui qui tombe dans ses péchés, il lui est retiré la perfection de la foi. Prophète dit alayhi salatu salam, il n'y a pas un fornicateur qui fornique alors qu'il est croyant. Et il n'y a pas un voleur qui vole alors qu'il est croyant. Et il n'y a pas un buveur de vin qui boit alors qu'il est croyant. Qu'est-ce que ce hadith veut dire? An-Nawawi rahimahullah il nous l'explique et il nous dit que c'est-à-dire que ce hadith, comme l'a expliqué les grands savants, celui qui fait ses péchés, il n'a pas la foi complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus la foi comme l'ont compris les Khawarij. Khawarij, ils ont compris que ce hadith voulait dire que celui qui fait un grand péché, il n'est plus musulman, non. Celui qui fait ces grands péchés-là, il ne peut pas avoir la foi complète et parfaite. Et c'est le genre d'expression dans lesquelles on trouve une négation complète, mais en fait, on veut par cette négation-là, une négation d'une partie de la foi. Mes frères, après tout ça, est-ce que, encore une fois, quelqu'un puisse avoir envie de concrétiser cette intention qu'il a en lui? Il faut que chaque musulman, chaque musulmane, se mette en tête qu'en faisant cela, il n'a fait que vendre un paradis qui est aussi large que les cieux et la terre, contre une envie qui est de passage. Une envie qui part aussi vite qu'elle est venue. Une envie que lorsqu'elle disparaît, et par ses conséquences néfastes et fades restent et subsistent. Si celui qui veut faire la fornication, il réfléchissait et il se disait que peut-être de cette union interdite allait voir le jour une personne, un être humain, qui allait vivre sans père, sans mère, ou sans même une vraie famille. Un être humain qui allait devenir comme un objet trouvé, que les gens se passent. Et cet enfant, lorsqu'il grandira, et qu'un jour il sera mis au courant de son origine, et il a subi les remarques des autres toute sa vie, qu'est-ce qu'il fera? Peut-être que le reste de vie qu'il a, il le passera à invoquer contre ses parents. Il le passera à invoquer contre ses parents. Il faut que réfléchisse celui qui a l'intention de faire ce péché, que peut-être ce péché peut en amener à un autre qui est pire. Combien de fornicatrices se sont rendues aux hôpitaux pour avorter de leur enfant, afin d'effacer aux yeux des gens la trace de ce péché. Mais auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, rien n'est effacé et tout subsiste. Alors elle a commencé avec le péché de la fornication et elle a fini avec le péché du meurtre, wallahu al-musta'an. Et après tout ça, mes frères, il ne faut pas désespérer. On ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout nous, qui avons vécu dans cette société et qui vivons toujours, et que beaucoup de gens sont tombés dans ce péché, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils doivent exprimer un repentir sincère et véridique, et qu'ils sachent qu'Allah azza wa jalla dit, en parlant de Ibad al-Rahman, ceux de qui nous parlons, quand on dit qu'ils ne font pas la fornication, Allah il dit ensuite, et celui qui fait ça, il a certes rencontré un grand péché. Les mufassirs ont dit Azaman Sa'ala Nawa'in. Soit ça veut dire un énorme péché, soit c'est le nom d'un fleuve en enfer. Le châtiment lui sera multiplié le jour du jugement. C'est le Coran ça. Et il y restera éternellement. Sauf celui qui se repent et qui croit et qui fait de bonnes actions. Celui-là, Allah, il remplacera ses mauvaises actions par des bonnes. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si tu as fait un grand péché, mon frère, et que tu reviens vers Allah, tabaraka wa ta'ala, avec un cœur sincère et véridique, et que tu éprouves un regret immense au fait d'avoir fait ce péché, et bien Allah, tabaraka wa ta'ala, il transformera tes sayyiat en hasanat, à condition, comme on l'a dit, que tu éprouves un regret sans pareil, et que tu ressentes l'acidité et l'amertume de ce péché dans lequel tu es tombé chaque fois que tu t'en souviens, et que l'amertume de ce péché est plus grande dans ton cœur que le plaisir que tu as ressenti lorsque tu l'as fait, et que ce péché t'amène et te pousse à faire de bonnes actions de plus en plus, et c'est ça qui fera que tes mauvaises actions deviendront des bonnes. Il y a un homme qui est devant le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ya Rasulallah, que dis-tu d'un homme qui n'a pas délaissé, il n'y a pas un péché qui existe sans qu'il l'ait fait. Que ce soit dans une place publique ou à l'abri des yeux des gens. Que lui dit-il de personne? Est-ce qu'il peut se repentir? Le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, t'es-tu converti? Est-ce que tu es devenu musulman? Alors l'homme, il a dit, naam, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah, seul ton associé, et que tu es son messager. Alors le prophète, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, oui, tu fais le bien et tu délaisses le mal et Allah transformera tout ce mal en bien. Alors l'homme il a dit, même mes trahisons et même mes turpitudes. Pourquoi tu l'as dit? Oui. Alors l'homme il s'est retourné, il est parti, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il n'arrêtait pas de répéter jusqu'à ce qu'il disparût. Mes frères, c'est ainsi qu'on va commencer à améliorer notre situation, notre société, notre communauté. C'est de ne pas tomber dans le péché et de préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, celui qui préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui évite de tomber dans ses interdits et qui pense à la récompense qu'Allah ta'ala lui fera, il se trouve à l'abri. جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires, يعني sa langue. Tiens ta langue, mon frère, arrête de parler pour ne rien dire. Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires et ce qu'il a entre les jambes, يعني qui fasse attention, qu'est-ce qu'il fait avec. Et ben moi, يعني le prophète, عليه الصلاة والسلام, je lui garantis le paradis. On conseille à nos frères, et en particulier les jeunes, de mettre tout de leur côté pour ne pas tomber dans ce péché. Et en particulier ceux qui ne sont pas mariés, de rechercher les causes qui leur permettront de concrétiser le mariage. S'ils en sont capables, et s'ils ne le peuvent pas, alors qu'ils jeûnent. Pourquoi j'insiste sur la capacité? Parce que de nombreuses fois, il y a des frères qui viennent nous voir et se plaignent, et ils nous disent, oui, on n'arrive pas à se marier, il n'y a pas de sœurs, ou bien les gens ils ont des filles, ou bien des sœurs, ils ne veulent pas nous marier avec elles. On n'arrive pas à se marier. Alors qu'on leur demande à ces frères-là, Yahri, est-ce que tu as quelque chose pour pouvoir te marier? C'est fini l'époque où tu prenais ton âne, t'allais dans le désert et tu faisais avec des briques une maison. Sauf si tu pars dans certains pays où c'est encore possible. Mais Mahana, c'est pas possible. Ils vont te demander un contrat de location ou là, un certificat d'achat ou là, j'en passais des meilleurs. Attends, je vais voir un père de famille. Tu dis, marie-moi ta fille. Tu t'es dit, tu travailles? Non. T'as une maison? Non. T'as quelque chose? Non. Comment tu vas t'occuper de ma femme? De ma fille? Comment tu vas t'occuper de ma soeur? Et après, on entend quoi? Quand il y a certaines personnes qui, malgré ça, marient leur fille ou leur soeur à ce genre de frère, qu'est-ce qu'on entend quelques mois plus tard? Ce n'est pas une totalité ni une généralité, mais ça arrive beaucoup malheureusement. Il a divorcé. Et quand on dit à ces frères-là, t'arrives pas à te marier, tu peux pas te marier, est-ce que tu jeûnes? Il dit non, moi je jeûne pas, c'est trop dur, je jeûne pendant le mois du Ramadan. Et pourtant le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut entretenir un foyer, qui peut assumer une vie conjugale, que ce soit avec sa force physique ou financière, alors qu'il se marie. Et s'il ne peut pas, qu'il jeûne. Et quand on dit aux jeunes de jeûner, ils restent bouche bée, ils ne parlent plus. Tu peux te marier, marie-toi mon frère. Tu peux pas te marier, eh ben, jeûne, jusqu'à ce que tu puisses te marier. Demande à Allah, et Allah il te donnera. Allah il dit, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que ceux qui ne peuvent pas se marier, alors qu'ils préservent leur chasteté, comment? En jeûnant. Jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse, de par son privilège. Et on conseille aux frères d'éviter les endroits dans lesquels se répand ce genre de mal, comme les marchés, les centres commerciaux, les parcs, ou bien même de voyager dans des pays où cette turpitude est devenue monnaie courante. Voilà, des fois on nahir, ou nahtar, on devient perplexe quand on entend un tel est parti en Thaïlande, un tel est parti à Bangkok. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tijara? Ben va faire Tijara ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Siyaha? Va faire Siyaha ailleurs. Et après ils reviennent et ils pleurent et ils disent on a fait Zina wal iyadu billah. C'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. Pourquoi tu vas là-bas? Ou bien on va voir des pères de famille qui nous disent fiers et contents, ah oui, tu me chasses Thaïlande. Je vais te dire. Tu vois des pères de famille qui viennent nous voir, ils sont contents. Mon fils il est parti en Thaïlande, il va me ramener une montre pas chère. Ou bien des vêtements, là, je sais pas quoi. Ya Ami, ton fils est parti faire Zina, ça se trouve. Et t'es content. Ma'alesh Allah mazal sghir. Ma'alesh Allah ghafurur rahim. Et j'en passe et des meilleurs. C'est à cause des ma'alesh comme ça. Et à la fin, quand il revient, il dit j'ai épousé une prostituée thaïlandaise. Et il vient nous voir à la mosquée, il va voir mon fils pour lui faire la siha. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Faut craindre Allah Azza wa Jal en soi-même et dans ceux qu'on a sous notre responsabilité. Et n'oublie pas, mes frères, que ce bas monde est un monde dans lequel nous sommes éprouvés et testés jusqu'à ce qu'on le laisse pour arriver dans une demeure où on sera rétribué pour ce qu'on a fait. Et toutes ces envies ces pulsions, hein, ces jouissances, c'est une partie des choses avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا فوق الأرض وأن يحفظنا وأن يسترنا تحت الأرض وأن يحفظنا يوم العرض. نسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون. اللهم اجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والغلا والزنا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا لصلاتكم من حمكم.